Vous écoutez RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, un film choc qui fait déjà polémique. Salafiste donne la parole aux islamistes. Les auteurs, Lemine Oulsalem et François Margolin, nous expliquent leur enquête. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'être là. Salafiste est donc le titre de votre documentaire qui sort en salle, le 27 janvier, dans deux jours. De 2012 à mi-2015, vous avez pu interroger et filmer des musulmans salafistes. Vous allez nous raconter, c'est passionnant, dans quelles conditions. Avant d'en parler, le parti pris du film, si vous voulez bien, qui fait polémique. Ce week-end, lors de sa projection au Festival international des programmes audiovisuels à Biarritz, la seconde projection a failli être annulée. Le CNC a préconisé une interdiction aux moins de 18 ans. On va le raconter tout de suite parce que vous allez assez loin. Vous montrez l'application de la charia avec cet homme qui se fait couper la main. Vous montrez une exécution publique. Vous diffusez le discours de James Foley, l'otage américain de Daesh, avant son exécution, ainsi que la mort du policier tué devant le siège de Charlie Hebdo. Est-ce que déjà vous compreniez cette levée de bouclier ?
Non, pas du tout. Non, absolument pas. Moi, je pensais qu'on aurait éventuellement des problèmes avec des gens qu'on aurait pu interviewer, mais pas du tout avec le gouvernement français. Or, ce qui s'est passé là est très étrange parce que on ne fait pas de la propagande pour eux, on ne tombe pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans la fascination pour les images de Daesh. On essaie justement de couper, sans jeu de mots, les séquences avant qu'il y ait des choses insupportables, comme justement des mains coupées, des choses comme ça. Mais par contre, on voulait montrer que les images de Daesh font partie intégrante de leur combat et que c'est une arme comme les autres, puisque c'est comme ça, en les diffusant sur Internet, qu'ils prennent des villes comme Mossoul en faisant fuir par la terreur les armées qui sont en face.
Donc vous ne comprenez pas la polémique. Est-ce que vous allez modifier, Lemine et François, quand même le film, par exemple, la famille du policier qui a été tué devant Charlie Hebdo, vous demande de ne pas diffuser cette image-là. Est-ce que vous allez l'enlever ?
Ah non, évidemment, bien sûr. Nous sommes déjà engagés auprès de la famille, auprès de l'avocat. Et en tout cas, la version officielle et définitive du film ne comportera pas du tout cette scène-là. Absolument, absolument.
L'idée, c'est quoi ? C'est un constat, vous dites, les salafistes, ils nous connaissent très bien, nous on ne les connaît pas, donc vous voulez montrer et vous misez sur l'intelligence du spectateur, assez intelligent pour avoir le recul nécessaire, pour comprendre qu'il ne s'agit pas de propagande, puisque vos détracteurs, entre guillemets, vous reprochent qu'il n'y ait pas de mise en contextualisation.
Mais oui, si, mais si vous voulez, moi je m'inscris, j'ai fait beaucoup de documentaires dans la vie, je m'inscris dans la tradition de Raymond Depardon, de Claude Lanzmann quand il fait Shoah, de gens comme Jean Hatzfeld quand il a été interviewé des bourreaux Hutus, c'est très prétentieux de le dire, mais de la tradition de Solzhenitsyn quand il faisait l'archipel du Goulag, c'est de montrer un certain nombre de choses en face, d'oser dire ce que font, y compris des gens qui peuvent, aux yeux de la plupart des gens, représenter le mal. Donc il faut aller montrer ces choses-là. Je crois que c'est un travail nécessaire parce qu'aujourd'hui, pour les Français, comprendre qui sont les gens qui sont face à eux, c'est fondamental.
Et ces gens-là, ils vous disent face caméra et vous allez raconter comment, notamment, puisque vous avez tourné et notamment à Tombouctou en 2012, ils vous disent les homosexuels sont des animaux qui méritent la mort. Le journal Charlie Hebdo a que ce qu'il mérite, c'est une attaque légitime. Vous avez tout ça face caméra. Dans quelles conditions vous avez tourné ? Donc, d'abord à Tombouctou en 2012, lorsque la ville était entre les mains d'Acmi et d'Ansar Dine.
Alors, en fait, l'idée de ce film trouve son origine dans une idée toute simple. C'était d'aller voir ces gens et de voir ce que c'est que la charia au quotidien. C'est-à-dire comment vit-on sous la charia. C'est pour cela que nous avons été à Tombouctou, puis à Gao, auprès d'Acmi Ansar Dine, et puis après du Mijao. Et au fur et à mesure notre travail évoluait, nous sommes rendus. Il y a eu des changements, notamment il y a l'apparition du phénomène Ansar Sharia en Tunisie, qui a donné d'ailleurs, qui a donné ce que l'on voit aujourd'hui en Tunisie. Puis après, le phénomène État islamique. Alors nous avons décidé d'élargir tout cela, mais il fallait aussi aller discuter avec des théoriciens, des théologiens, pour essayer de comprendre d'où est-ce que viennent leurs arguments pour commettre...
Mais quel était le deal avec eux, d'une certaine manière ? Parce que vous avez donc pu assister à des exécutions, des choses assez terribles. Est-ce qu'il y avait un contrat ? Vous étiez libre de filmer ce que vous voulez ?
Alors, il faut dire, dans l'absolu, vous savez, nous étions chez eux. Donc c'était les maîtres, c'était eux qui fixaient les règles les règles du jeu. Même si, par ailleurs, il faut l'avouer, ils ont respecté leurs engagements, puisque nous aussi, nous avons respecté notre engagement. Par exemple, nous n'avons jamais voulu dépasser les limites qui nous ont été fixées, parce que ça pouvait tourner mal, et de toute façon on n'était pas là pour ça. Et nous avons essayé d'aller les voir. Nous savions à l'avance que s'ils nous acceptent, c'est éventuellement pour parler, c'est-à-dire que leurs paroles soient entendues ailleurs. Mmh. Sauf que non, nous ne sommes pas venus pour cela. Nous sommes venus en nous posant les mêmes questions que tout le monde se pose, y compris les habitants de Tombouctou qui vivaient sous le règne de la charia, ne connaissaient pas ces gens-là, n'avaient pas l'habitude de discuter avec eux. Nous sommes partis avec les mêmes questions que vous vous posez ici, qu'un habitant d'Araka en Syrie se pose aujourd'hui, que l'écrasante majorité des gens qui les voient dans les télévisions ou à travers le
Donc vous vous alliez pour, d'une certaine manière, dénoncer eux pour porter la bonne parole avec une grande part de risque pendant le tournage, j'imagine.
Ben oui, c'est ça qui est le plus étonnant, c'est qu'on a risqué notre vie pour faire ça et qu'aujourd'hui, on nous le reproche en nous disant qu'on fait l'apologie du terrorisme. Donc les rôles sont quasiment inversés. J'espère d'ailleurs que la ministre de la Culture le comprendra avec intelligence et qu'elle, je ne dis pas qu'elle reviendra sur sa décision, mais parce que ce n'est pas une décision d'elle, mais qu'elle, disons, changera la décision qui a été donnée pour l'instant par la commission de censure, ou qu'on appelle du visa, oui, au CNC, parce qu'il faut que le film soit vu. Je trouve que c'est un travail de citoyen, c'est un travail de salut public de montrer ça. On a déjà des projections prévues dans les banlieues avec des profs qui trouvent le film formidable et qui pensent que c'est en allant débattre avec leurs élèves.
Mais il faut la pédagogie qui va avec, quoi. Il faut aller expliquer, parce que quand, par exemple, ça c'est assez incroyable, vous interviewez quelqu'un qui a bu une bière et qui vous explique que les coups de bâton vont purifier ses péchés.
Non, il faut avouer que c'est vrai que c'était une sonne. Excusez-moi, bon, c'était assez drôle quand on a été voir ce garçon qui venait de se faire condamner à quelques coups de flagellation, je pense une quarantaine de coups pour avoir bu de la bière. Et il disait, non, je ne le dis pas parce qu'il y a des armes, je ne le dis pas. Mais évidemment qu'il ne parlait pas. S'il n'y avait pas. Je suis persuadé d'ailleurs que si nous retournons aujourd'hui à Gao et le retrouver, il y a de fortes chances que nous le retrouvions en train de fumer un joint et de boire une bière.
Comme ce voleur qui s'est fait couper la main, qui dit lui-même qu'il est hospitalisé, et il dit qu'il comprend d'une certaine manière la pratique.
Mais oui, je trouve que le spectateur est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il y a des contradictions énormes, et que quand ces gens-là, ils ne parlent pas librement, bien évidemment. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a pas besoin d'un spécialiste ou d'un commentaire pour comprendre ces choses. Le spectateur français est intelligent.
Pour conclure, et le message du film, puisque vous dites mieux comprendre les salafistes, on se rendra compte mercredi sur les écrans, pour vous, c'est qui, les salafistes ?
Alors, j'avoue que, bon, on ne peut pas réduire les salafistes aux djihadistes. C'est un vaste courant qui regroupe aussi bien. Donc, l'écrasante majorité, il faut le souligner, l'écrasante majorité des salafistes sont comme l'écrasante majorité des musulmans. Ce sont des quiétistes pacifistes et qui ne sont pas du tout partisans du djihad. Mais les djihadistes parmi eux sont aujourd'hui l'acteur le plus médiatique, le plus présent sur le terrain. Et c'est lui qui aujourd'hui agit en Irak et en Syrie, qui aujourd'hui prend quasiment le contrôle d'une grande partie de la Libye et qui hier était dans le nord du Mali et qui continue toujours aujourd'hui à agir au Sahel et un peu partout.
Mais ce sont des gens qui ont une chose en commun, c'est l'idéologie. Ils sont contre la démocratie, ils pensent que les femmes ne sont pas les égales des hommes, ils pensent que les homosexuels doivent être lapidés. Et ils sont pour les prises d'otages et certains pour les égorgements.
Merci à tous les deux. Le film sort mercredi. Pour l'instant, éventuellement interdit aux moins de 18 ans. On va voir. On a entendu votre message à la ministre de la Culture.